Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto.
Dans la catégorie des véhicules Volkswagen qui ont été vendus chez nous et qui étaient assez audacieux, il y a le Touareg V10 TDI qui m'a toujours impressionné. Fabuleux véhicule. Plus de 80 000 $ en 2004. Et cette même année-là, comme si ce n'était pas assez, il y a une berline pleine grandeur qui est débarquée chez Volkswagen pour aller rivaliser contre une autre berline pleine grandeur de luxe du même constructeur qui était l'Audi A8. Il y a quelqu'un quelque part chez Volkswagen qui a eu une idée. C'était écrit dans le ciel que ça serait un échec commercial. Mais non, on a quand même décidé de la lancer. Alors, on parle évidemment de la Volkswagen Phaeton. Hugues, tu as une belle histoire à nous raconter là-dessus.
Oui, c'est une assez belle histoire. Ben, y a des autos, avant même d'en avoir pris le volant, vous savez que ça va être un désastre commercial. Tout le monde se doutait que la Phaeton allait être un échec. Tout le monde savait que même si elle était parfaitement exécutée, c'était une mauvaise idée. Tout le monde... sauf une personne.
Ouais. Ferdinand Piek, nommons la personne. Bon, comment ça a commencé l'aventure pour la Phaeton?
Le point de départ, c'est le salon de Francfort 97. Déjà depuis quelques années, BMW et Mercedes ont commencé à descendre en gamme et à prendre des ventes à la populaire marque Volkswagen. Et au salon de Francfort, Mercedes dévoile sa compacte classe A. Ouais. Le président du groupe Volkswagen est absolument furieux. Et il dit, eh ben, si c'est comme ça, Volkswagen va concurrencer Mercedes.
Ah oui?
Ouais. Donc,
c'est vraiment...
c'est aussi zozo que ça.
Donc, autrement dit, t'as un président de Volkswagen qui dit, hey, Mercedes va aller jouer dans les plates-bandes de ma Golf, moi je vais aller jouer dans les plates-bandes de sa classe S.
Exactement.
C'est pas plus dur que
c'est
ça.
C'est pas plus dur que ça.
Ça marche.
Et donc là débute le plan de montée en gamme de la marque. S'appelant littéralement, on va le rappeler quand même, la voiture du peuple. Le tout est accompagné par les rachats de Bugatti, Lamborghini et Bentley en 98. Premier signe de cette montée, c'est le lancement de la Passat W8 en 2002.
Oui.
Avec son W8 de 4 litres de 275 chevaux. L'auto sera un bide, 11 000 ventes en 3 ans. Et tout l'investissement sur le V8 ne sera pas amorti puisqu'il aura été utilisé sur juste un seul modèle. Mais là, c'est que le début.
Tu parles du W8.
Du W8.
Oui, ok.
Et là, c'est que le début parce que là, justement, maintenant, Volkswagen veut aller concurrencer la classe S.
Bon. Le président de Volkswagen, à ce moment-là, c'est Ferdinand Piek. Parle-moi un peu du bonhomme.
C'est un type avec un CV qu'on peut dire prestigieux. C'est le petit-fils de Ferdinand Porsche, le concepteur de la Beetle, et le neveu de Ferry Porsche, fondateur de la marque Porsche.
Ouais.
Ingénieur de formation, il est notamment le créateur de la Porsche 917 victorieuse aux 24 heures du Mans et de l'Audi Quattro. Il a été président d'Audi de 1988 à 1992 et devient président de tout le groupe Volkswagen le 1er janvier 1993. À ce moment...
T'es en train de me dire que c'est au moment où lui était en poste qu'Audi a lancé sa première V8.
C'est ce que ça veut dire. Il y a eu l'Audi A8 avant, qui était la V8.
Il y a eu la V8 à partir de 90.
88 en Europe. Et l'A8 arrive à peu près dans ces moments-là.
L'A8 après,
ouais.
Ok.
Et à ce moment-là, le groupe Volkswagen est au bord de la faillite. Piek réalisera un redressement spectaculaire. C'est un ingénieur doué, mais avec une personnalité de sociopathe. Le type est extrêmement exigeant avec tous ses collaborateurs, il manage par la terreur et son surnom est le Bulldog.
Okay.
Piek ne supporte pas la contradiction et n'a jamais tort. C'est pour cela que personne n'a osé rien lui dire pour la Phaeton.
Bon, alors cette Phaeton-là, il a décidé de la lancer, mais il y avait derrière la voiture, il y avait énormément d'innovations, de technologies, de trucs qui étaient intéressants, où il partageait avec Audi entre autres, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on voyait une voiture de marque généraliste aussi luxueuse, aussi remarquable au niveau de la qualité de fabrication. Là.
Tout à fait. Et rien ne sera trop beau pour le projet W611. Nouvelle plateforme, nouvelle technologie, nouvelle usine. Le programme aurait coûté 1 milliard d'euros. Et Piek a fixé une liste de 10 critères d'ingénierie réputés impossibles.
Waouh.
En voyant la liste, la moitié des ingénieurs seraient sortis de la pièce en état de choc. Et un seul critère a été rendu public, c'est la capacité de rouler toute une journée à 300 km/h avec une température extérieure de 50 degrés, tout en maintenant une température intérieure constante de 22 degrés. Un truc de fou, surtout quand on sait que la voiture est limitée à 250 km/h.
Et on sait que c'est utile, ça, ce
bien
genre
sûr.
De...
C'est indispensable.
Mais tu parlais d'un sociopathe. C'est clairement, c'est ce genre de demande.
On y est, il n'y a pas photo. La nouvelle plateforme D1 est développée et pour amortir les coûts, elle est partagée avec la Bentley Continental GT et la Flying Spur qui sont à venir.
Ouais.
Autre critère d'ingénierie intéressant est d'offrir une rigidité en torsion exceptionnelle pour améliorer le confort et la tenue de route.
Ouais.
Les ingénieurs vont faire un travail de fou et réaliser un chiffre de 37 000 Nm par degré en déformation. En comparaison, une 911 Turbo 996 de la même époque faisait 27 000 Nm, donc beaucoup plus rigide qu'une 911. Ajouter une nouvelle suspension pneumatique à pilotage électronique, la transmission intégrale de type Aldex, le radar de stationnement avant et arrière. La climatisation ne comprend pas moins de 24 servomoteurs pour réguler la température sans le moindre courant d'air et avec un déshumidificateur pour éviter la buée sur les fenêtres. Au final, la conception de la Phaeton amènera au dépôt de plus de 100 brevets.
Et là, ça c'est une chose, mais on veut aussi changer la façon de la fabriquer. Autrement dit, on veut faire les choses un peu différentes. C'est pas la première fois qu'on entendait ça. Tu sais, moi, je me souviens de l'épisode de la Cadillac Alante, donc tu vas peut-être
oui,
nous parler un jour,
bien sûr.
Où on a eu un festival de mauvaises idées comme ça. Mais
pas
là,
mal à ce
ça,
aussi.
C'est quand même assez impressionnant. Là.
Oui. Et alors, effectivement, ils veulent changer la façon de faire les choses parce que pour voitures de luxe, écrins de luxe, donc une toute nouvelle usine est construite à Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est, elle est appelée la fabrique de verre. Et contrairement au site de production traditionnel, c'est une usine silencieuse, propre et gorgée de lumière naturelle. Les convoyeurs robotisés se déplacent sur un plancher en érable canadien. Les ouvriers sont habillés en blanc et il n'y a que 3 robots, histoire de montrer la qualité du travail à la main. Mais bon, pour ça, il y a une astuce évidemment. Pour éliminer les bruits et les odeurs, toute la tôlerie est réalisée dans une autre usine, à Zwicko, située à 100 km de là, et les moteurs sont aussi assemblés sur d'autres sites. Évidemment, on ne peut pas tout avoir. Hein. Alors, cerise sur le gâteau, la fabrique de verre est aussi utilisée comme lieu de culture et avec l'organisation de concerts, et les clients peuvent venir chercher leur voiture après une visite sur la ligne d'assemblage, et le personnel est formé pour parler au public.
Imagine-toi. Puis là, on a des grosses attentes avec un produit comme celui-là.
D'attente de fou. En effet, Vaux vise la production de 20 000 véhicules par année. Dans ce segment-là, quand on n'est pas installé, c'est quand même pas mal. La marque montre un premier prototype à Francfort en 1999 sous la forme du concept D, avec le fameux V10 TDI dont tu as parlé au début.
Ouais.
La version finale est présentée au Salon de Genève en 2002. Au départ, 3 motorisations sont disponibles, un V6 de 3,2 litres, un V8 de 4,2 litres et un W12 de 6 litres. Il y a 2 empattements, 2,88 m ou 3 m. Un an plus tard, suivra un V10 turbo diesel de 5 litres, celui dont on parlait toujours, et un V6 turbo diesel de 3 litres l'année suivante. À l'intérieur, on retrouve les meilleurs cuirs, les meilleurs bois, les plus beaux plastiques. Le siège conducteur offre jusqu'à 18 possibilités de réglage. Les passagers arrière peuvent bénéficier d'une console centrale. Et tout est fait pour pouvoir maintenir une conversation à 250 km/h sans avoir à lever la voix. Et c'est vrai, je peux le confirmer.
Écoute, tu parles de ça. Alors, avant de passer à ton prochain sujet et aux ventes du véhicule, qui n'ont pas été aussi intéressantes que souhaité, une des premières Volkswagen de presse que j'ai empruntée, moi, personnellement, c'était une Phaeton 2004, couleur vert de gris, avec un intérieur tabac. Je me souviens très bien de la voiture. Et j'avais fait un aller-retour New York. Et à cette époque-là, je ne me souviens pas avoir conduit une voiture aussi impressionnante.
Non, non.
Bon, évidemment, mes référents n'étaient pas aussi élevés, mais c'était un TGV sur autoroute. Ah. Le comportement routier de ça, c'était extraordinaire. Et c'était que le 4.2, parce qu'on a eu le W12 aussi qui a été offert chez nous. Là.
Mais ça, je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas d'accord à dire que c'était une voiture exceptionnelle pour ce qui est du confort.
Moi, j'étais au lancement en Allemagne. Et quand je te dis qu'on roulait à 250 km/h sur l'autobahn à 4 dans la voiture, dans la version diesel qu'on n'a pas eue ici, sans avoir à lever la voix, ce n'est pas une image. je l'ai fait.
Mm-hmm. Wow.
Donc, ça en dit beaucoup sur la qualité du véhicule.
Sur le plan technique, c'est une voiture qui était au point, puis avec le fric qu'ils ont mis là-dedans, puis les ingénieurs qu'ils ont mis là-dedans, les ressources qu'ils ont mis là-dedans, c'est clair que ça ne pouvait pas faire autrement. Et surtout avec le patron qui surveillait ça, ce projet-là, comme il voulait avoir, je suis convaincu, des mises à jour au quotidien, là, savoir comment les choses avançaient. Alors, c'est clair que c'était une voiture qui était techniquement au point. Mais tu sais, personne ne va acheter une Volkswagen de 100 000 $.
Ben non, c'est ça.
c'est ça le
exactement.
Problème.
Et qui plus est en 2004.
Exact.
Tu sais, parce que même aujourd'hui, une Volkswagen à 100 000 $, ça dépasse l'imaginaire, tu vas me dire.
Exact.
Mais en 2004, il y a 20 ans, c'était des sous pas à peu près.
Et c'est vrai que les ventes décollent pas en Europe, parce que la voiture à ce moment-là n'est pas encore lancée ici. Il y a juste l'Allemagne où les ventes sont à peu près décentes. Et à ce moment-là, ben, Volkswagen compte beaucoup sur le lancement nord-américain. Et la marque espère écouler entre 4 et 5 000 véhicules par année. On aura droit qu'aux versions longues, donc pas l'empaquetement court, et aux moteurs V8 et W12. Le V10 devait arriver plus tard.
Mais le V6 devait être offert ici, puis ils ont changé d'idée.
Bah, initialement, non, mais de toute façon, il n'y était pas. Mais très vite, ils ont vu que ça décollerait pas. Pour rappel, les prix canadiens à l'époque étaient de 96 500 $ pour le V8. Et 119 500 pour la W12.
Ça, c'est à la dernière année de commercialisation.
La première année.
Ouais. Ah oui, hein? Imagine tout ça, pas de bon sens.
Ça n'a aucun bon sens.
Hey, c'est le prix de ça. Bon. Puis évidemment, chez nous, on l'a vendu 2 ans et demi parce qu'il y a eu quelques 2006. Mais bonne chance à ceux qui mettent la main sur des 2006. Là, je n'ai à peu près jamais vu. Je me souviens de la distinction facile à faire entre une 2004 et une 2005. Tu n'avais pas la même grille de calandre. Puis le dessin des jantes avait changé. Ouais. Là, tout de suite, tu es distingué. 2006, c'était la même chose, mais il n'y en a pas eu. Là. C'est, rapidement, la voiture est disparue du marché. Mais on l'a gardé, quoi, 10 ans de plus Europe. Là.
On va y venir. Alors justement, on va donner des chiffres. Millésime 2004, on regarde les ventes américaines dans le segment des berlines haut de gamme. 32 300 Lexus LS, 20 400 Mercedes Classe S, 16 100 BMW Série 7, 7 600 Audi A8, et 1939 Volkswagen Phaeton. Donc là, c'est une catastrophe. Au Canada, c'est pire. 93 exemplaires vendus en 2004.
93, moins de 100 unités. Et là-dedans, on peut s'imaginer que chaque propriétaire de concessionnaire Volkswagen s'en est au moins livré une à lui-même.
Ça, clairement.
Combien il y avait de concessionnaires Volkswagen au Canada à cette époque-là? 60?
Ouais, à peu près,
ça veut dire qu'au détail, on en a vendu une trentaine.
Et c'est tellement une catastrophe qu'en novembre 2004, Axel Mies, le directeur d'Audi USA, critique publiquement le lancement de la Phaeton. Devinez quoi? Il est licencié le lendemain. On parlait du patron. Les ventes américaines baissent tellement vite que la Phaeton est effectivement, comme tu le disais, retirée à la fin du millésime 2006 après seulement 3354 immatriculations en 3 ans. Et ça, bah, c'est au prix de généreux rabais dans certains cas.
On salue le papa de notre ancien collègue Germain Goyer qui s'est acheté tout récemment une Phaeton 2004 en super condition. Elle est rangée sous une toile dans un garage et c'est son char du dimanche. Mais il ne l'a pas payé 100 000. Bon, alors, terminé en 2006 pour nous, mais aux en Europe, on continue de la produire et très longtemps, on y apporte des améliorations.
Oui.
Donc, on s'est obstiné.
Ah bah oui, pourquoi? Parce que Ferdinand Piëch n'est plus le PDG de Volkswagen depuis 2002. Mais il est encore président de son conseil de surveillance.
Ah ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc, bah, la Phaeton continue dans un anonymat de plus en plus grand. Il y a des restylages mineurs en 2008, 2011, 2014, bah, notamment pour remettre les moteurs, les systèmes d'avertissement et les aides à la conduite au niveau. L'esthétique ne bougera pas beaucoup.
Non.
Piëch est finalement poussé dehors en 2015 et, comme par hasard, la fabrication de la Phaeton s'arrête le 18 mars 2016. Après seulement 84 253 exemplaires en 15 ans. 84 000 voitures en 15 ans. Pour information, les marchés les plus populaires ont été la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne.
La Corée du Sud, ouais. OK, intéressant. Mais cette voiture-là, bon, évidemment, là, on le sait, là, ça a été un échec commercial épouvantable. Mais à l'inverse de beaucoup d'échecs commerciaux dont on peut avoir parlé C'était pas une mauvaise voiture, c'était uniquement une mauvaise mise en marché.
Exactement. C'est une voiture qui avait des qualités incroyables, on en a parlé, mais elle souffrait d'un style trop proche de la Passat. Toutes les deux ont été dessinées sous la direction du designer Hartmut Varkus, j'espère que je prononce bien. Elle avait des qualités dynamiques moindres que celles de l'Audi A8 parce qu'elle pesait 300 kilos de plus.
Parce qu'elle n'avait pas de carrosserie d'aluminium.
Voilà. Mmh. Ouais. Et le réseau n'était pas du tout préparé à la vendre. Mais je pense que le pire, c'était le logo sur la calandre qui était le Mencum Golf et qui a fait fuir les acheteurs haut de gamme. En 2014, le cabinet d'analyse Bernstein Research avait calculé que Volkswagen perdait 28 000 euros par exemplaire vendu, soit près de 3 milliards de dollars canadiens sur la durée de vie du modèle. Dès le premier jour, tout le monde savait chez Volkswagen que la Phaeton allait perdre de l'argent, mais personne n'a voulu se faire abouiller dessus par le bulldog.
Wow. Ouais, ça, c'est clair. Ça te montre jusqu'à quel point ce gars-là avait une mainmise totale et entière sur tout ce qui se passait dans ce groupe-là.
Bob Lutz a dit le scandale du Dieselgate, c'est clairement lui. Il n'a jamais dit tricher, mais il a entraîné une culture à l'intérieur de dire ça prend des résultats, ça prend des résultats, ça prend des résultats. Faites ce que vous voulez, les gars.
Exact. Mais tu sais, juste pour te situer, je pense que ce bonhomme-là, il y a eu 12 enfants de 4 femmes différentes.
Enfin, c'est un chiffre assez élevé.
Ça donne une idée du personnage.
Ça, c'est ce qu'on sait.
Exact. Ouais, tu sais, il avait décidé, c'est sous sa gouverne qu'il a décidé que Audi allait acheter Ducati. Ducati, le fabricant de motos italien. Ouais. Tu sais, c'est des motos haut de gamme, là. C'est des motos hyper. Ducati, c'est la Ferrari des motos. Ouais. C'est pas compliqué. Puis là, il a décidé que c'était important d'intégrer des motos italiennes qui se vendent, la moins chère se vendait, je sais pas quoi, moi, 15 000 ou 20 000 $, je sais pas quoi.
Ouais.
Puis les plus chères, c'était au-dessus de 50 000. Parce que ça, c'est important que le groupe Volkswagen détienne cette marque-là, alors qu'il n'y avait aucun transfert de technologie possible.
Aucune énergie possible. Rien.
Exactement. Mais lui, il tripait sur les Ducati, et j'achète la compagnie. C'est hallucinant quand tu y penses.
On est content qu'il n'ait pas trippé sur Subway. Dieu sait si Vox ne nous vendrait pas des sous-marins aujourd'hui.
D'accord.